Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc dans nos lectures en liberté pour la deuxième semaine avec le roman de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux. Vers 17h, la fille des auto-tamponneuses se pointa avec sa mère qui tenait le stand de gaufres. Les deux femmes passaient leur temps à ingurgiter des bonbons, le cul vissé à leur siège. Et curieusement, la mère était aussi sèche que la fille était grasse. Une fois le groupe électrogène allumé, la piste s'illumina. La mère fit chauffer ses moules, lança la barbe à papa. Une odeur caramélisée se répandit sur la dalle. Il y eut de la musique. De leur côté, les garçons étaient repassés chez eux et sentaient le gel douche. Leurs cheveux brillaient, certains avaient un peu forcé sur le déo. Ils se donnaient des airs ennuyés, revenus de tout, mais paraissaient principalement fébriles. Enfin, elles arrivèrent, deux par deux, ou alors par petits groupes. Des filles aux yeux baissés, riant sous cape, avec de longs cheveux noirs et qui lançaient des œillades obliques. Elles prirent place de l'autre côté de la piste, sur les bancs, ou accoudées à la barrière de sécurité. Elles venaient des autres quartiers d'Ayange, ou de La Mecque, Étange, voire de Mont-de-Vaux, pour celles qui avaient pris le bus. Elles avaient le droit parce que c'était les vacances et à condition de ne pas rentrer trop tard. Dans le quartier, on ne draguait pas, parce qu'une meuf était fatalement la sœur ou la fille de quelqu'un. Mais ces visiteuses étaient autorisées. Elles débarquaient chaque jour grâce à ce bout de fête foraine. Il fallait profiter. Hassine se dirigea le premier vers la caisse. Il prit 10 jetons pour 20 balles. Derrière sa vitre, la fille était déjà en âge. Quand elle reconnut la chanson que diffusaient les haut-parleurs, elle monta le son. C'était un titre de Bryan Adams, assez gnangnan, et sa mère leva les yeux au ciel. Elle venait de lancer ses premières gaufres et s'éventait avec un journal de petites annonces. Les autres garçons faisaient déjà la queue pour prendre des jetons. C'était parti. Une fois ses 10 premiers jetons dépensés, Hassine en acheta 10 de plus. Il tourna en rond pendant près de 2 heures. Ses potes lui rentraient dedans, il faisait de même. Et tout ce temps, il ne fit que penser à cette fille qui se trouvait sur le bord avec 2 copines, celle avec les créoles et la French manucure. Elle le suivait du regard. À chaque fois qu'il regardait dans sa direction, elle détournait la tête. Tous les jours, il espérait quelque chose. Ça ne venait pas. Il ne savait pas son nom, rien. Il n'en avait parlé à personne. Un peu avant 20h, elle s'en alla. Elle ne restait jamais très longtemps. Hassine quitta la piste, regagna le muret où se déroulait sa vie, dégoûté. Elliot lui demanda « C'était quoi le problème ?»«
Rien, me casse pas les couilles !»
En plus, Saïd et Steve avaient réussi à faire monter des meufs dans leur petite bagnole. Des baltringues pareilles. Hassine cracha entre ses incisives. Le petit Kader les regardait. C'était la connerie à ne pas faire.
Quoi ?
Rien.
Qu'est-ce que tu regardes ?
Mais rien. Arrête de me regarder comme ça, fils de pute.
Ça dura. Le petit Kader fut bien forcé de baisser les yeux. Au-dessus de leur tête, le ciel était pris dans la mâchoire que dessinaient les tours. Sur les façades, les fenêtres creusaient des yeux étroits, des bouches malades. On sentait la bonne odeur de gaufre et Freddie Mercury chantait « I want to break free ».
Hassine finit par se tirer. Le petit Kader était vert. Il s'était fait mettre à l'amende pour rien du tout.
« Ouais, je sais pas ce qu'il a. Déjà hier, on était à une teuf. Il était comme un ouf. »«
Comment ça ?»«
Je sais pas, il a niqué le barbecue. Il a traité tout le monde de fils de pute. »«
Il a raison, c'est tous des fils de pute. »«
Ouais, grave. »
Ils se marrèrent. N'empêche, par moments, c'était à se demander s'il n'était pas un peu dingue. Hassine descendit la côte de la ZUP sur l'IZ, plein gaz, le buste penché. Il s'enfila dans le centre-ville à fond de troisième. Le jeu consistait désormais à ne plus freiner. Il suffisait pour cela d'anticiper les virages et de remettre les gaz en fin de courbe. Le petit moteur crépitait rageusement dans les ruelles. Sur son passage, les gens ne voyaient rien qu'une silhouette maigre, deux bras filiformes sortis d'un t-shirt extra large. Aussitôt, il tirait de cette vision et de la gêne occasionnée des conclusions politiques. Dans la poitrine de Hassine, un cœur de 17 ans était pris dans les barbelés. Il était évidemment exclu pour lui de s'arrêter au feu. Il n'en pouvait plus. La mort devenait par instant un sort enviable. Il se retrouva bientôt sur la départementale qui s'étirait toute droite vers Étanges et choisit de s'arrêter en bordure d'un champ où reposaient d'énormes ballots de paille. Il abandonna la bécane et partit à travers les chaumes desséchés. Il allait d'un bon pas, la lèvre moite, ses bras nus ballant le long du corps. Sur sa langue, un goût de pièce de cuivre. Il s'ouvrait la route dans un frottement sec, laissant derrière lui un sillage aplati. Il poursuivit jusqu'à la fatigue, puis s'adossa dans l'ombre d'un ballot. Il tira alors son zippo de sa poche et se mit à jouer avec. Il l'ouvrait du pouce et l'allumait sur son jean. Le soleil avait faibli et diffusait maintenant sur la campagne une lumière enrobante et douce. C'était un vieux briquet couleur bronze, comme au Vietnam. Il l'avait pris à un môme pendant les épreuves du brevet. Chaque année, les élèves de troisième de Hurlevent, un bahut privé du centre-ville, venaient passer leur examen à Louis Armand. Il fallait les voir débouler avec leurs pulls Benetton. Les parents les déposaient en lançant des regards inquiets sur les bâtiments publics aigris. On se serait cru sur le quai d'une gare après la conscription. Cette tradition républicaine de l'examen délocalisé remontait à un moment déjà. Les premières éditions avaient d'ailleurs été riches en rapines diverses et autres vexations compensatoires. Mais cette lutte des classes de basse intensité ne rapportait plus guère. Les nantis de Hurlevent s'étaient passé le mot et laissaient désormais leur montre de communiant à la maison. Et on n'allait quand même pas leur tirer leur tanse. La dernière fois, Hassine s'en était pris à un groupe de chevelus en t-shirt de rock. C'est ainsi qu'il s'était approprié le zippo et deux capots d'astre. La flamme bleue sentait bon le pétrole. Et il alluma un brin de paille à ses pieds. Celui-ci s'embrasa aussitôt. Malgré la tentation, Hassine étouffa le feu sous sa semelle. Ce goût de pièce de cuivre se répandait dans sa gorge. Une acidité lui venait dans la poitrine et il sentit sa bouche se remplir de salive. Il alluma son briquet une nouvelle fois. La balle de paille s'embrasa dans un grand crépitement de chaleur, un soupir de fumée. Les flammes montaient, aiguës, voluptueuses. L'odeur était merveilleuse. Il fit quelques pas en arrière pour mieux voir. Déjà le feu courait sur le sol, allait chercher plus loin sa pitance. Hassine respirait à plein poumon. Il commença à éprouver ce calme sidérant qui venait à chaque fois. Il pouvait enfin rentrer chez lui. Quand la moto démarra, on aurait pu croire que toute la vallée flambait dans son dos. « T'as fumé ? T'as fumé encore ?» fit le vieil homme. Ne trouvant pas ses clés, Hassine avait dû sonner pour que son père lui ouvre, et ce dernier se trouvait là, debout, pieds nus dans ses savates, habillé tout en jean, le col fermé jusqu'en haut. Dans son visage ridé, les yeux étaient illisibles. Sous son nez, un buisson de poils blancs avait échappé au rasage. Il y voyait de moins en moins. « Mais non, répondit Hassine, ça va ? Je peux rentrer ? Tu sens la fumée, tu fumes ? Je te dis que non !» Le père fronça les sourcils et se pencha pour renifler le t-shirt de son fils. Il grommelait, mais libéra quand même le passage. Une fois à l'intérieur, Hassine retira ses Nike. Un bruit de cocotte minute venait de la cuisine, ça sentait les patates. « Des gens, ils ont vu ton frère, » dit le père gravement. Sa voix était grumeleuse, basse et belle. Les mots y baignaient comme des cailloux dans un tamis. « Ils ont rêvé. Ils disent qu'ils l'ont vu. » Le garçon se tourna vers son père dont la pupille avait pris un contour hésitant, une couleur opaline qui signale d'ordinaire la vieillesse. Il n'avait pourtant que 59 ans. « Pourquoi ils diraient s'ils l'ont pas vu ?»«
Ben, je sais pas, moi, ils ont confondu. »«
On m'a dit qu'il était là. »«
Ben, c'est des conneries, arrête avec ça !» gémit Hassine.
L'homme semblait soucieux. Il n'avait plus vu son fils aîné depuis longtemps maintenant. Hassine sentit son cœur se serrer. Lui et son père étaient coincés dans le couloir étroit. Au mur, on trouvait des miroirs, de vieilles photos, des objets, de là-bas et sur le sol l'alignement de leurs chaussures. Hassine reprit la parole.
« Qu'est-ce qu'on mange ?»«
Comme d'habitude. Allez, viens. » Le père retourna à ses fourneaux. Il fit revenir deux steaks hachés dans la poêle, puis monta le volume de la radio que couvait le grésillement de la viande. Ensuite, il coupa le feu sous la cocotte et ils passèrent à table. Le père buvait de l'eau. Le fils se servit un verre de grenadine. Il ne faisait pas encore nuit, mais la température était déjà plus supportable. On sentait l'odeur du café qui était resté au chaud toute la journée. Il ne parlait pas, mangeait un coude sur la table. Le téléphone sonna et Hassine courut dans le salon pour répondre. C'était sa mère. Elle appelait de là-bas. Ils échangèrent quelques mots, mais c'est elle surtout qui parlait. Elle lui disait qu'il faisait chaud. Et elle était contente de le voir bientôt. Elle lui demanda s'il était sage. Ensuite, le père prit le combiné et discuta quelques minutes avec son épouse en arabe. Hassine alla s'enfermer dans sa piaule pour ne pas déranger.
Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. L'une d'entre elles et la plus belle, elle sait bien dire papa, maman. Quant à son frère, il peut prédire pour demain la pluie ou bien le beau temps. Moi, je construis des marionnettes avec
de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. Chez nous, à chaque instant, c'est jour de fête. Grâce au petit clown qui nous fait rire. Même Alexa, cette pauvrette, oublie qu'elle a toujours pleuré. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Elles vous diront que je suis leur ami, que je suis leur ami, que je suis leur ami, leur ami.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Et donc nous revenons à la suite du roman de Nicolas Mathieu, après cette musique, qui sera cette semaine donc un hommage au chanteur Christophe. Plus tard, son père vint le trouver. « Tu es allé à la mairie ?»« Ouais. » »« Il y avait le travail ?» Même s'il vivait là depuis bientôt 35 ans, le père continuait à parler ce français relatif, alors même qu'il avait contracté l'accent grossier de la vallée. À chaque fois qu'il ouvrait la bouche, Hassine avait envie de se planquer. Mais non, mais il n'y avait pas de travail. Pas de travail. Elle m'avait dit c'est bon. L'homme pénétra dans la chambre pour en avoir le cœur net. Non, t'as pas compris. Elle est juste là pour aider les gens qui cherchent du boulot, mais ils ont rien, ils servent à rien. Ben comment ça? Elle m'a aidé sur mon CV, c'est tout. Elle sert à rien, je te dis. Ah bon? Les sourcils du père se rejoignirent et il marmonna quelque chose d'inaudible en arabe. Sous sa moustache, on devinait à peine le mouvement étroit de ses lèvres brunes. Hassine lui demanda de répéter. « Il faut travailler !» déclara le père, soudain solennel. « Ouais, mais il faut du boulot aussi. On trouve. Si tu veux, tu trouves !» répliqua le père, archi-convaincu. « C'est ça. Au fait, j'irai faire les courses lundi matin. Il n'y a plus rien dans le frigo. » « Oui, c'est bien. » Le vieux était très fort pour lui faire la morale, mais quand Hassine remplissait le frigo, il n'y avait plus de sermon. Le garçon s'était levé. Il annonça qu'il sortait. « Pour aller où ?»« Oh, je sais pas, nulle part. »« Comment ça, nulle part ? Je rentre pas tard. »« Tu rentres toujours tard. » Hassine avait déjà quitté la pièce. Dans le couloir, il se dépêcha d'enfiler ses pompes et son blouson, mais il n'échappa pas à un dernier conseil. « Si tu fais les conneries, gare !» Hassine promit et rejoignit ses potes sur la dalle. Kader faisait un peu la gueule. Hassine le taquina juste assez pour remettre les compteurs à zéro, puis ils se mirent à glander en observant le balai des auto-tamponneuses. Elliot roula un petit deux feuilles, il ne lui restait presque plus rien. À six, c'était un peu juste. Au lieu de détendre l'atmosphère, ça crispa tout le monde. « Qu'est-ce qu'on fait ?» fit Saïd. C'était la question rituelle, la même 10 fois par jour. « Ben je sais pas, on bouge ? On bouge où ? On bouge, on verra bien. Vas-y, t'endors pas !» Chacun tâchait de tirer le plus possible sur le joint. Mousse fut de la baise. Il se contenta d'écraser le mégot dans la poussière. Bientôt, les foraines coupèrent le courant et les derniers clients se dispersèrent dans l'obscurité. Les deux femmes partirent à leur tour avec la caisse, adressant un signe d'au revoir au garçon. Les immeubles composaient maintenant un paysage de lignes droites semées d'éclats bleus. L'âge de la cité se dissolvait dans la nuit. Ne restaient que des masses, des arêtes, des fenêtres illuminées. Encore l'ennui,
putain, cette déprime. Bah, sa mère, qu'est-ce qu'on fait? Venez, on s'en fout, on fait un truc. Refais d'un pet, au moins. Non, là, j'ai presque plus rien. Tu touches demain, ça va? On verra demain. Fais pas ton fils de pute, on s'en fout. Demain, c'est tout.
La journée tirait à sa fin. Lundi, Hassine verrait pour revendre la bécane. Il connaissait un ferrailleur, il en tirerait bien 500 balles. Quand les cousins arrivèrent chez Anthony, la matinée était déjà bien entamée. Ils se sentaient sales, abattus. En plus, le père les attendait au volant de sa camionnette. Le voisin était là, lui aussi, en short, un gobelet de café fumant à la main. Les apercevant qui rappliquaient, il éclata de rire, mais c'était plus pour dédramatiser qu'autre chose. Sur l'autoradio de la camionnette, une voix nasillarde répétait « Stop ou encore ?»«
Vous étiez où, les guignols ?»
Le père regarda en l'air par-dessus ses voirnettes, comme s'il cherchait à déduire l'heure de la course du soleil. Les garçons s'étaient immobilisés à bonne distance, les bras ballants.
« Ah ben, ils sont beaux, tes oiseaux !» fit le voisin.
Le père se racla la gorge et prit une bouteille de flotte qui se trouvait à portée de la main sur la banquette. Il en avala peut-être la moitié avant de la reposer. Apparemment, ce n'était pas la grande forme non plus. Il s'éclaircit encore la voix et tout ça.
Ben, « Ça fait des plombes que j'attends. T'étais passé où ?»«
Ben, c'est samedi, » fit Anthony.
« Et alors ?» Ça t'autorise à passer la nuit dehors ?
Les garçons avaient marché longtemps pour revenir de Dimblois, levant le pouce à chaque fois qu'une bagnole passait. Au total, ils ne s'étaient pas dit 100 mots de tout le trajet. Anthony commençait à avoir un peu la gerbe.
C'est que des mômes, dit le voisin. C'est pas bien grave. Ouais, fit le père. Je crois que je vais m'occuper de mes affaires si ça ne te dérange pas.
Le voisin comprit le message et le père sauta de la cabine de son Iveco. Il portait ses pompes de sécu, un bermuda en jean, un débardeur, qui laissait voir ses bras nus. Il chercha ses clopes dans sa poche et les garçons virent les deltoïdes et les tendons faire des nœuds sous sa pompe bronzée.
Ben, « Je vais y aller, moi, » dit le voisin.
Le père fit mine de ne pas avoir entendu. Après avoir allumé sa clope, il revint à Anthony.
« Alors, t'as une explication ?»« Bon, je vous laisse, » dit le voisin.
Il peinait à maintenir son sourire. Il leva sa main aux doigts coupés pour dire salut.
« Ouais, le bonjour à Evelyne, » dit le père.
Il n'y manquerait pas. Il s'éloigna en traînant la savate. La circonférence de ses mollets était absolument scandaleuse. Une fois, il avait fait une prise de sang et s'était découvert un taux de cholestérol surhumain. Il n'en avait pas dormi pendant 3 jours, mais ne s'était pas calmé sur la charcuterie pour autant. Il fallait bien mourir un jour, de toute façon. Le père enleva un brin de tabac du bout de sa langue. Anthony pouvait se voir dans ses lunettes de soleil déformées et pas très fringant.
« Alors, ben on était chez des copains. On avait un peu bu, on a préféré dormir là-bas. »
Un sourire ambigu se dessina sur les lèvres du père qui s'adressa alors au cousin.
« Je pense qu'on t'attend chez toi. »
Les deux garçons prirent le temps de se taper dans la main et le cousin décampa à son tour. Anthony se retrouvait tout seul avec sa gueule de bois sous le soleil et le regard du père.
« C'est quoi vos salamalecs ? Vous vous serrez la main comme des bougnoules maintenant ?»
Anthony ne moufta pas. Il pensait au vide au fond du garage.
Allez, monte, dit le père, on a du boulot.
Je peux pas prendre une douche avant.
Monte, je te dis.
Anthony obéit. Son père prit le volant. Le camion s'ébranla tandis qu'Anthony s'accoudait à la fenêtre pour prendre l'air.
Mets ta ceinture. J'ai pas envie de prendre une prune en plus.
À la sortie du lotissement, le père était déjà en 4e et roulait à près de 80. C'est à peine s'il leva le pied pour passer les ralentisseurs situés en amont de l'école primaire qui jouxtait la caserne des pompiers. Anthony sentit son estomac se soulever
et se dit qu'il allait dégueuler. Il fallait qu'il arrête au moins 2 minutes prendre l'air. Il se tourna vers son vieux. Mais ce dernier fixait la route, ses mains carrées rivées au volant, une clope entre l'index et le majeur. Sur ses lunettes de soleil, le ciel glissait sans fin. Ils quittèrent la ville, et Anthony dut attendre encore 10 minutes pour trouver le courage nécessaire. « Faut que tu t'arrêtes !» Le père le regarda. « T'es pas bien ?»« Non. » Effectivement, le garçon était blanc comme un linge. La camionnette s'immobilisa sur le bas-côté dans un gémissement hydraulique. Anthony sauta de l'habitacle. Il n'avait pas fait 3 pas qu'il rendait tout ce qu'il avait dans l'estomac. Quand il se redressa, il était en nage. Il prit son polo pour s'essuyer le visage et la bouche. Le pansement sur sa main droite était noir de crasse. Devant lui, la départementale qui menait vers Étanges, la Mecque, Thionville et plus loin vers le Luxembourg s'étirait à perte de vue. Une Fiat Panda passa en trombe. Puis il vit venir de très loin un petit vieux en mob qui tractait un chariot. La rumeur nasillarde s'amplifia. Le petit vieux passa, impérial, les yeux rivés sur l'horizon, un casque bol sur la tête. En le suivant du regard, Anthony trouva le rétro de la camionnette. Il y vit la mâchoire du père, son cou, l'épaule nervurée de muscles, les premiers cheveux grisonnants dans sa nuque. Il cracha pour se débarrasser du goût amer dans sa bouche et regagna le camion. « Ça va mieux ?» demanda le père. « Ouais, tiens. » Anthony prit la bouteille de flotte et but longuement. Le camion repartit. Sur le bitume, la chaleur faisait déjà se lever des miroitements flous. Bizarrement, ils ne revirent pas le petit vieux sur sa mob, à croire qu'il s'était complètement volatilisé. À la radio, l'animateur souhaitait de bonnes vacances aux Haoussiens et bon courage aux juilletistes qui allaient reprendre le taf lundi. Puis les premières notes de « J'aime regarder les filles » montèrent dans l'habitacle. « Tu sais pas ce qu'elle mijote, ta mère, des fois. Ben comment ça ?» Le père retira ses lunettes et passa ses mains sur son visage, sa nuque. Puis il lâcha brièvement le volant pour s'étirer. Leur camionnette filait maintenant à bonne allure à travers les prés. Des champs de colza qui n'arboraient plus ce jaune brutal d'avant la récolte. Des lignes à haute tension raturaient par instant la souplesse du paysage. « Elle a remis ça ce matin, c'est toi aussi, fouteur de merde, à part rentrer de la nuit. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Rien, » fit le père sèchement. Puis après un silence, il ajouta « En tout cas, si elle veut partir, c'est pas moi qui la retiendrai. » Ils poursuivirent leur route. À la maison, les disputes pouvaient partir sur n'importe quoi, le regard d'un homme, le programme télé, un mot de travers. Hélène savait appuyer là où ça faisait mal. Son père n'avait pas les mots. Anthony se dit que si jamais il levait encore la main sur elle, il le tuerait. Il en avait presque la force maintenant. Il se sentait ramollo et avait un peu envie de chialer. Et la moto, putain ! Donc cette lecture du roman de Nicolas Mathieu est terminée pour ce soir et nous retrouverons la suite demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.